Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 1. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Et notre sujet, c'est l'épreuve de Dieu, non pas dans le sens que vous pourriez penser. Je me souviens qu'un jour, on m'a demandé, un groupe de jeunes gens m'a demandé, il y a quelques années, « Prouve-nous que Dieu existe. » Et j'ai été poussée à leur dire, « C'est très difficile, d'une certaine manière. » Bien sûr, vous pouvez démontrer que Dieu existe. Il y a beaucoup de livres qu'on appelle des livres d'apologétique, où il y a tous les arguments qui démontrent que la foi en Dieu est entièrement sûre, raisonnable, la certitude de son existence. Il y a beaucoup d'approches différentes et d'arguments que nous pourrions prendre, et tout ceci est valable et bon. Mais cependant, la plupart du temps, les gens n'acceptent pas ces arguments. Il y a toutes sortes de livres écrits par des athées, des incroyants, comme Richard Dawkins et d'autres, qui essayent de démonter tous ces arguments. Mais ils n'y arrivent pas. Il les contourne et au lieu de traiter ces arguments, il trouve d'autres manières pour les contourner. Parce que ces arguments ne peuvent pas être détruits, ils sont très puissants. Malgré la puissance de ces arguments, les gens n'écoutent pas ceci, ils ne veulent pas les entendre. Ainsi, nous pourrions passer toute la soirée à parler des preuves de Dieu d'une manière conventionnelle. Mais si vous ne croyez pas, ceci ne va pas nécessairement vous impressionner, parce qu'il y a un problème profond, un grand fossé entre nous et Dieu, avant que nous ne le trouvions et avant de le connaître. Et nous sommes pleins de préjugés contre lui et nous ne voulons pas croire. Et en réalité, Dieu se cache de l'incrédule. D'un côté, l'être de Dieu, l'œuvre de Dieu, ceci est évident. Et démontré, et en même temps, Dieu se voile devant l'incrédule. Et ainsi j'ai répondu à ce groupe de jeunes gens il y a bien des années, « Si j'essaye de vous prouver que Dieu existe, d'une certaine manière, je peux œuvrer contre Dieu, parce qu'il se cache loin de vous. Il ne veut pas vous voir d'une manière profonde et qui a de la signification. Il y a un problème là. » En travers du chemin. Et souvent ceci est expliqué dans l'Écriture. Jacques dit ceci, et l'apôtre Pierre également, en citant les mêmes paroles du livre des Proverbes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et c'est un grand principe de l'œuvre de Dieu. Sans aucun doute, il méprise ceux qui le méprisent, dit le roi Salomon dans le livre des Proverbes, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Est-ce que nous sommes hautains? Est-ce que nous le méprisons? Est-ce que nous n'avons pas besoin de Dieu? Alors, nous ne le trouvons jamais. Peut-être nous allons dire, si Dieu est là, alors je suis prêt à croire en lui. Si Dieu se montre à moi, je vais lire tout livre d'apologétique. Je vais étudier le sujet. Si je suis convaincu, alors je vais accepter de croire en lui. Non, vous n'aurez pas de satisfaction. Parce que votre recherche ira nulle part, c'est un principe souvent répété dans les Écritures. Et les gens disent parfois, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas plus évident? Et c'est là la raison, il se voile loin de l'orgueilleux, de celui qui est méprisant, de celui qui ne ressent pas son besoin de lui. Il y a 50-60 ans, je faisais beaucoup de travail au British Museum. Je lisais, à présent c'est ouvert au public, mais ce n'est plus utilisé comme une pièce de lecture. Ça c'était avant que la British Library se détache du British Museum. Il y avait toutes sortes de livres qui avaient une valeur historique et vous aviez la permission, si vous demandiez, d'accéder à cette pièce. Mais il y avait un problème. C'est une pièce qui faisait 50 mètres de diamètre, mais il y avait 220 sièges en cuir des beaux bureaux, toutes sortes de gadgets, 220 sièges pour tous les intellectuels d'Angleterre, tous ceux qui voulaient venir là pour étudier, ce n'était pas suffisant. Ainsi, ils devaient restreindre l'admission dans cette pièce. Si vous vouliez un ticket ou une permission pour lire dans le British Museum, dans cette pièce de lecture, vous deviez l'obtenir d'un officiel qui était dans une pièce un peu surprenante, au bout d'un grand couloir, et dans une petite pièce, mais très haute. Elle faisait probablement 8 mètres de haut, une atmosphère un peu bizarre. Et là, il y avait 4-5 personnes expérimentées, âgées, et leur travail, c'était de considérer chaque personne, que ce soit par courrier ou ceux qui venaient en personne. Et leur question, c'était, est-ce que cette personne a besoin de cette pièce de lecture? Et il y a beaucoup de professeurs d'université qui étaient refusés, qui ne pouvaient pas obtenir ce ticket pour cette pièce de lecture. Et parfois, de nombreuses fois, des jeunes qui pouvaient démontrer facilement que ce qu'ils faisaient dépendait de ce livre rare qui était là dans la librairie du British Museum, eux, ils recevaient un ticket, mais pas les professeurs éminents. Ainsi, ce n'était pas vos accomplissements, votre carrière, votre réussite ou le fait que vous soyez célèbre, mais c'était votre besoin qui était important. Et je donne ceci comme une illustration, parce que c'est la même chose pour le Seigneur, et c'est bien plus profond. Il se révèle lui-même à ceux qui ressentent leur besoin de lui. Il se révèle lui-même à ceux qui sont conscients de leur besoin désespéré de son pardon, de la réconciliation avec lui. Ainsi, en ce qui concerne Dieu pour vous, ceci peut être un grand brouillard. Peut-être vous ne réalisez pas qui est Dieu, peut-être vous êtes superficiel, léger par rapport à tout ceci, peut-être que vous êtes orgueilleux, hautain ou méprisant, je ne veux pas offenser quiconque, mais Dieu ne va rien vous donner, il ne va pas entendre vos prières et rien ne sera réel pour vous. Peu importe la recherche que vous faites, peu importe votre travail, il ne sera jamais réel pour vous, jusqu'au jour où par la grâce de Dieu et par l'œuvre de Dieu lui-même, votre cœur sera dans une bonne disposition d'esprit, que votre attitude sera juste. J'aimerais lire, avant de continuer, dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1 et à partir du verset 18. Écoutez ceci. « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent, c'est-à-dire qui minimisent, la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. » Dit l'apôtre Paul, l'existence de Dieu est évidente. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas croire en Dieu. Un jeune homme a dit un jour, de manière hautaine, « Il n'y a aucune preuve que Dieu existe. » Il n'y en avait pas pour lui. Et c'est là l'explication, et c'est très triste, si ceci s'applique pour vous également, sans excuse. Parce que, alors que c'était évident que Dieu existait, ils avaient un instinct en eux que Dieu existe. Tout le monde a ceci. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains, c'est-à-dire futiles. Dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Et Dieu s'est voilé loin d'eux. C'est là la réalité. Il n'y a pas de preuve pour celui qui est méprisant, qui est hautain, orgueilleux, pour l'incrédule délibéré. Pour la personne qui ne ressent pas son besoin de Dieu, c'est là la vérité. Et au verset 28, dans Romains chapitre 1, « Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, ou rebelle si vous voulez, en sorte qu'ils commettent des choses indignes, et qu'ils pêchent, et le péché règne, ils sont liés à la tentation, au péché. » Nous lisons dans l'Écriture, que Dieu a mis l'éternité dans le cœur des hommes et des femmes, dit Hébreux. Ils ont un instinct. Les grandes questions universelles que les gens posent, jour après jour, dans chaque partie du monde, quel est le but de la vie? Pourquoi suis-je ici? Est-ce qu'il y a un au-delà? Ces questions même indiquent que ces choses sont là, dans notre cœur, et nous devrons un jour rendre compte. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas répondre. Jonathan Swift dit que personne n'est aussi aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Et on pense qu'il a tiré ceci du livre de Jérémie, chapitre 5, verset 21. « Ô gens insensés, sans compréhension, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles et n'entendent pas. » Et c'est là, nous, selon les Écritures. Si nous ne croyons pas en Dieu, c'est quelque chose de délibéré, c'est moral, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Et vous ne verrez jamais Dieu, et le brouillard ne disparaîtra jamais jusqu'au jour où vous acceptez son chemin et ses voies. J'aimerais considérer ces versets rapidement dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. » C'est là le premier principe de la parole de Dieu. Dieu a envoyé un sauveur. Il y a un problème immense, c'est la rébellion de l'homme contre Dieu, la chute de l'homme. L'homme est hostile contre Dieu, il veut son propre chemin, son propre monde, sa détermination propre. Il ne veut pas Dieu dépendre de lui, il ne veut pas le remercier, le louer, mais il veut le crédit pour toute chose, il veut une vie de péché, il veut faire tout ce qu'il veut, ce qui lui plaît, il veut la liberté morale, il ne veut pas Dieu. Et ainsi, il ne peut pas voir Dieu. Il y a ce grand problème. Comment pouvons-nous convaincre les gens de l'existence de Dieu? Ce dont ils ont besoin, c'est que leurs péchés soient pardonnés pour qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu. Et si ceci peut être fait, alors vous voyez Dieu pour vous-même et vous ressentez sa bonté, vous expérimentez sa bonté, sa puissance. C'est pour cela que la Bible commence avec Christ. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament donne toutes ces promesses qui parlent de Christ. Et le Nouveau Testament parle de Christ, de ce qu'il a fait, et qui il est, et comment il peut bénir. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il a une vie nouvelle, une vie spirituelle, une nouvelle existence, des yeux pour voir, et des sentiments pour Dieu, et un esprit qui comprend, et tout devient réel et vrai. Et la Bible, la révélation de Dieu, est amenée à la lumière pour nous. Dans ce chapitre, Jean parle de la foi et comment Dieu se révèle à l'homme. Et il commence non pas avec la justification de qui est Dieu, mais avec Christ. Et c'est là que nous commençons ce soir. Quiconque croit que Jésus est le Christ, que Dieu a envoyé un sauveur. Et j'en arrive au verset 2. Nous savons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Nous sommes introduits dans la famille des croyants, des enfants de Dieu, et vous avez un lien avec les autres enfants de Dieu et vous les aimez. Au verset 3, car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or ses commandements ne sont pas pénibles. Quelle transformation! En croyant en Christ, en le priant, en ayant son pardon, le pardon de sa part. Il a payé le prix en mourant pour les péchés de tous ses enfants à la croix du calvaire. Et en faisant ceci, nous avons une nouvelle relation avec lui et une nouvelle relation avec ses commandements. Soudainement, le péché et les choses mauvaises sont nos ennemis et par l'aide de Dieu, nous voulons lui plaire. Et nous trouvons que ses commandements sont glorieux, non pas pénibles et un fardeau. Au verset 4, les choses ont changé radicalement pour nous, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. De quoi est-ce que ceci parle? Une nouvelle image de Dieu et du monde. Deux royaumes différents, si vous voulez. Deux royaumes différents. J'étais mondain, j'aimais le monde, je vivais pour le monde, je croyais dans le monde et je rejetais Dieu. Mais à présent, je suis passé dans l'autre royaume, mais c'est lui qui m'a amené dans son royaume, ce n'est pas moi, c'est lui qui a fait une œuvre en moi. Il m'a transformé, il m'a pardonné. Et à présent, je suis un membre du royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu et le monde, la société en général, qui est contre Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu dans ce royaume est victorieux du monde, victorieux de la tentation et des murmures du diable. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. C'est un autre élément que Jean mentionne. À présent, je vis une vie de foi. À quoi est-ce que ceci se réfère? Si je suis converti, je suis appelé à me confier en Dieu, à me confier en lui, et alors que je me confie en lui, il se révèle plus à moi. Et il tend son bras, il m'aide, il me bénit de plus en plus. Je vis cette vie de foi, cette confiance en lui, et je le connais de plus en plus. Au verset 5, « Qui est celui qui est victorieux du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Vous ne deviendrez pas chrétien par un argument élaboré qui vous prouve que Dieu existe, même si ces choses sont intéressantes. Non, je viens à Christ, il est lui la solution à mon problème. Non pas des arguments d'apologétique, mais une rencontre personnelle avec lui. Qui est celui qui est victorieux du monde? Chers amis, regardez, considérez le monde, considérez les journaux ou les actualités à la télévision, à la radio, tous les problèmes du monde, l'anxiété, les difficultés, les choses horribles qui se passent ici et là. C'est un monde de péché. Bien sûr, il y a des bonnes choses dans le monde, nous le savons, mais d'une manière générale, c'est un monde d'avarice, d'incrédulité et d'orgueil. Qui est victorieux de toute cette influence? La personne qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu du ciel, la deuxième personne de la Trinité, pour faire un sacrifice, pour prendre lui-même la condamnation à notre place pour notre péché, pour que nous puissions lui appartenir, pour qu'il puisse prendre soin de nous et nous enseigner. Au verset 6, c'est ce même Jésus le Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Ceci semble mystérieux, mais ce n'est pas mystérieux. Dans l'Ancien Testament, l'œuvre de Christ a été prophétisée par des illustrations. Quand le Messie allait venir, il allait purifier les gens de leurs péchés, il allait verser son sang pour expier leurs péchés, leur culpabilité. Cette œuvre de Christ, deux aspects, d'expier les péchés et de purifier. C'est là ce que Christ fait, l'eau et le sang. C'est ce même Jésus le Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu pour ceci. Il est venu pour purifier les pécheurs, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Et il a pris la condamnation de leurs péchés à leur place en versant son sang. Et si vous avez expérimenté cette purification, si vous savez qu'il est votre sauveur, qu'il a versé son sang pour vous, l'Esprit rend témoignage, le Saint-Esprit vous rend conscient que vous êtes son enfant. Le Saint-Esprit vous aide à vivre pour lui et vous réconforte et vous bénit. C'est là la signification du verset 6. Et je pourrais continuer avec certaines choses que vous pourriez appeler des preuves. Là au verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu » à le témoignage de Dieu en lui-même. Quelle chose extraordinaire, en lui-même. En d'autres termes, si je prie, une personne entièrement ordinaire, et je trouve un endroit calme, tranquille, je prie Dieu, celui qui est Dieu le Père, qui a envoyé Christ, au nom de Jésus-Christ, si je le prie, que je l'adore, que je le loue, et que je lui amène mes requêtes, même alors que je le prie, je suis conscient. Mais ce n'était pas le cas avant que je ne vienne à lui. Je suis conscient qu'il entend ma prière et que je suis son enfant. Et dans sa sagesse infinie, il va répondre à ma prière. Nous l'appelons l'assurance. Je suis certain de ceci. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Si j'ai été purifié du péché par Christ, si je crois en lui, lui qui a versé son sang pour moi, pécheur, et qu'il m'a donné cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance dans son royaume, alors l'Esprit témoigne en moi, et je suis sûr et certain, et je le sais. Celui qui ne croit point en Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Vous savez quelle est notre réponse à la Bible, la parole de Dieu? Ceci peut-être un jour la base, le fondement du jugement de Dieu, parce que de rejeter la révélation de Dieu, ceci est terrible. Ceci fait de Dieu un menteur et le rejette. Ceci, c'est la Bible, la parole du Dieu vivant. et vous découvrez dès que vous l'étudiez qu'elle est vraie. Quand j'étais jeune garçon à l'école, je me rappelle qu'il y avait des enseignants qui étaient censés nous enseigner la Bible. Ils nous enseignaient que ce qu'ils appelaient ses erreurs et ses contradictions soi-disant. Ce sont des choses qui semblent se contredire, mais qui ne se contredisent pas du tout, parce que dès que vous commencez à étudier la parole de Dieu, toutes ces questions disparaissent rapidement. Il n'y a pas de contradiction. Si vous lisez de la bonne manière, si vous lisez soigneusement, ce sont simplement des conclusions insensées qui ont été faites par des lecteurs cyniques. Et ils ne connaissent pas la Bible. La Bible est remarquable et elle a été authentifiée. Tant de fois, elle est bien plus qu'une composition naturelle, mais elle est divine. Elle vient de Dieu. Oh, j'ai parlé du British Museum. Le British Museum est plein d'objets d'archéologie qui ont été découverts au siècle dernier, le siècle d'avant, et qui confirment tant de récits de la Bible, tant de passages. Les gens étaient si cyniques et critiquaient en disant « ceci ne peut pas être vrai, ceci n'est pas la réalité, ceci est une erreur, ceci est une invention. » Et l'archéologie a prouvé que le récit biblique est juste, toujours à nouveau, et confirme la parole de Dieu d'une manière extraordinaire. Auparavant, ils s'en moquaient, et à présent, ils réalisent que la Bible est vraie. Qu'en est-il des prophéties? C'est extraordinaire. Je parle des prophéties à moyen terme. Il y a deux types de prophéties dans la Bible. Il y a des prophéties à moyen terme et des prophéties à long terme. Les prophéties à long terme sur l'avenir, mais il y a des prophéties remarquables à moyen terme qui se sont accomplies. On pourrait passer toute la soirée sur ces prophéties qui ont été accomplies parfaitement. Des choses si profondes, avec tant de détails qui n'auraient jamais pu être imaginées par des êtres humains. La Bible, sa composition, l'unité de son message, compilée sous l'opération de l'Esprit de Dieu pendant tant de siècles avec tant d'auteurs, et cependant, un seul lien qui est là du début à la fin, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur du monde. Et les doctrines de la Bible, vous lisez les doctrines du Nouveau Testament. Nous avons lu la lettre de Paul aux Romains. Quel livre de doctrine, tous les faits de Dieu, ses chemins, sa volonté, tant de détails, le but, les desseins de Dieu pour l'humanité. Et vous relisez les premiers livres de la Bible et la Genèse, il y a les mêmes principes, les mêmes doctrines, aucune contradiction, les mêmes doctrines, le même enseignement, tout le long de la Bible. Ces choses sont extraordinaires. Si vous ne croyez pas dans la Bible, le livre de Dieu, le récit de Dieu qui parle de son Fils, la deuxième personne de la Trinité, le Fils éternel de Dieu, son grand amour, et comment il est entré dans le monde, dans une personnalité humaine, dans un corps humain, pour vivre une vie parfaite, pour souffrir, pour mourir, pour révéler tous les attributs de Dieu à l'humanité, aux hommes et aux femmes, ces choses sont extraordinaires. C'est là le cœur de l'Évangile. Même si ces arguments sont élaborés et merveilleux, aucun argument pour prouver l'existence de Dieu ne peut vous aider. Mais nous avons besoin de rencontrer Jésus-Christ, le Dieu homme, et nous avons besoin qu'il transforme notre vie pour ôter notre brouillard, pour nous amener à Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Et j'ai lu certains de ces versets qui se réfèrent à ces choses alors que vous lisez ce chapitre. Notre temps est passé, mais considérez ceci au verset 13. « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Et au verset 14. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Pensez un peu à ceci, chers amis. Vous venez à Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Vous lui dites, « Ô Seigneur, j'ai été insensé, pécheur. Je me suis opposé à toi, je t'ai méprisé et je t'ai tourné le dos. J'ai gâché ma vie. Seigneur, je crois dans ton pardon, dans ton amour et fais de moi ton enfant. » Et c'est ce qu'il fait et tout ce que vous demandez qui est juste et qu'il est bon de demander, toute prière légitime que vous pouvez faire, qui n'est pas égoïste, il y répond dans sa toute puissance. C'est ainsi que nous l'expérimentons, non pas avec des arguments, mais par une démonstration de puissance. Venez à lui et vous aurez des preuves l'une après l'autre. La vie d'un chrétien est une vie de réponse aux prières, une vie de choses merveilleuses, des réponses qui sont si merveilleuses, pleines de réconfort, et qui illuminent et qui nous aident. Si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Nous pouvons lire tous ces versets, et l'un des plus grands de ce verset nous parle de la vie de sanctification. Quelle différence que d'être un chrétien, d'avoir l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Vous venez à Dieu un soir, en tant que chrétien, vous lui dites « Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait cette chose. » Peut-être que vous avez menti. Peut-être que vous vous êtes mis en colère, terriblement. Peut-être que vous avez fait quelque chose que même en tant que chrétien, vous en êtes honteux. Et vous confessez votre péché à Dieu, vous le priez pour son aide, et parce que vous avez prié pour son aide, il vous aide. C'est là le témoignage de l'Esprit. Et vous vous dites, j'ai la force de vaincre ce péché. Dieu m'a aidé aujourd'hui. Je ne suis pas tombé dans mon péché. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas été plein de convoitise pour quelque chose qui n'est pas bon, qui est péché. Je n'ai pas fait ce péché et j'ai reçu cette aide merveilleuse du Seigneur. Chers amis, n'est-ce pas une meilleure preuve? N'est-ce pas là la manière de prouver la bonté, la puissance, la réalité et l'être même de Dieu, son existence? Il l'étend sa main et il vous bénit et il vous aide. Mon temps est passé, chers amis, expérimentez Dieu. Même si je pouvais prouver d'une manière efficace l'existence de Dieu, vous ne l'accepteriez pas, parce qu'il y a un problème, c'est un problème de rébellion, d'hostilité, de préjugé. Ainsi, que pouvons-nous faire? Seul Christ peut répondre et peut résoudre ce problème. Il est venu pour mourir pour vos péchés, il peut vous pardonner, il peut vous amener à lui et vous faire naître de nouveau dans son royaume et vous transformer. Il sera votre Seigneur, votre Dieu, et vous donnera la vie éternelle. Et vous aurez des preuves, tant de preuves, l'une après l'autre, dans votre vie, de la présence de Dieu constamment alors que vous l'invoquez. Et vous serez de plus en plus certain de lui. C'est ainsi que nous pouvons expérimenter Dieu par Jésus-Christ. Et tout est là, dans la parole de Dieu. Révélé dans la parole de Dieu, ceci a été décrit dans le passé comme étant la lettre d'amour de Dieu pour l'humanité, Dieu qui se révèle aux êtres humains. La Bible a aussi été décrite comme étant la dernière parole de Dieu pour nous. Si vous ignorez l'Écriture et le message de Christ, alors Dieu n'a rien à vous donner. Chers amis, venez à lui, confiez-vous en lui et expérimentez-le et rencontrez-le. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, œuvre tendrement en nous, nous te prions. Aide-nous chacun, ô Seigneur, cet esprit méprisant et hautain et orgueilleux et indépendant et rebelle et égoïste. Et amène-nous à Christ, montre-nous son amour, sa bonté, son amour qui s'est donné pour ses enfants. Seigneur, sauve et bénis et amène-nous à lui. Nous te le demandons dans son nom et pour sa gloire. Amen.